On est heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Galère. On est heureux de retrouver Brandon, dont on a fait la connaissance la semaine dernière avec plaisir, voilà, qui va assurer la partie technique. Et puis l'équipe de Comaguerre est là aussi, avec donc Roselyne, un petit peu handicapée, mais qui est là.
Bonjour.
Et puis Habib, qui est là, comme d'habitude. Voilà. Merci d'être à notre écoute.
Eh bien, je vous en prie, il n'y a pas de problème.
Voilà. Et tu sais, puisque tu l'as fait, que si tu as des commentaires à faire sur ce que nous disons, tu es tout à fait autorisé, c'est même souhaité que tu le fasses. Voilà.
Avec plaisir, il n'y a pas de problème.
Ok. On sait que tu t'intéresses beaucoup aux questions qu'on aborde dans cette émission et peut-être à d'autres d'ailleurs. Moi, je ne suis pas du tout ingénieur du son de formation, mais j'imagine que là, tu saurais beaucoup de choses, tu aurais beaucoup de choses à nous apprendre.
Ça Évidemment,
ça sera pour une autre fois.
Voilà. Avec plaisir, pourquoi pas.
Merci, Brandon. Bien, alors je vais commencer, j'avais décidé de commencer par des sujets qui ne sont pas au centre de l'actualité pour un peu éviter de faire une heure encore sur la Palestine parce que, hélas, j'allais dire, une heure sur la Palestine, on va pouvoir le faire encore un certain nombre de semaines hein, dans des conditions qui peuvent évoluer, elles vont évoluer nécessairement. Je vous en parlerai à propos en particulier de la réunion en vidéo des BRICS au sommet qui se tient aujourd'hui même à l'heure où nous parlons en Afrique du Sud, à l'appel du président Ramaphosa, et où directement le président chinois et le président russe vont intervenir. Donc on est au plus haut niveau de la diplomatie internationale. Donc c'est très, très important, mais j'ai rien de plus à vous en dire puisque c'est en cours au moment où je vous parle. Donc, changeons un petit peu de lieu et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, même si on s'éloigne. Je vais vous parler d'Haïti. Alors, Haïti, tout le monde sait, premier pays du monde décolonisé par ses propres forces. Tout ça est de l'histoire connue. Et puis, pris en charge à la façon des États-Unis, c'est-à-dire colonisé pendant 70 ou 80 ans, directement une colonisation directe des États-Unis, avec en plus une exigence de contribuer aux frais de l'armée américaine. Enfin, ils ont été exploités à un niveau qu'aucune autre colonie décolonisée n'a subi. Du fait de la simple durée, ça fait deux siècles et un petit peu plus. Bon. Et la situation ne s'est pas arrangée. Alors, il y a eu de temps en temps quelques aperçus vers des rêves de démocratie. Je pense à l'arrivée du président Aristide et à son départ étrange. Vous savez que le président Aristide, donc, on aurait appelé ça chez nous un prêtre ouvrier ou quelque chose comme ça, un prêtre des banlieues, arrivé sur la base « je veux donner la parole aux pauvres ». Bon, et effectivement, quand les colonisateurs qui surveillaient la chose de près ont compris que c'était ça qu'il allait faire, ils ont dit « c'est pas possible, bon, on va l'arrêter ». Alors, heureusement, ils ne l'ont pas liquidé. Hein, mais un beau matin, il est arrivé un certain nombre de gens à sa villa qui lui ont dit « ben, y a un avion qui t'attend, sinon tu vas mourir hein ». Effectivement, donc on l'a mis dans l'avion, il s'est retrouvé au Congo. Et puis de là, il est parti en Afrique du Sud où il est resté. Puis après, alors il est revenu, je crois, 10 ans plus tard. Mais il est revenu en disant, je serai sage, je dirai rien, mais c'est mon pays quand même. Donc il est là, il ne fait plus de politique, il s'y est engagé. Voilà comment les leaders progressistes sont traités par les ex-colonisateurs. Alors je dis ex, et c'est encore une figure de style. Parce qu'il faut savoir d'une part que le beau matin où M. Aristide est conduit vers son avion, alors je ne sais pas s'il avait un revolver sur la tempe, ou l'affût d'une Kalachnikov dans le dos, mais c'était le même, qui représentait la France ce beau matin-là ? Un certain Dominique de Villepin. Encore lui. C'est-à-dire que je saisis toujours ces occasions pour dire « Oui, oui, de Villepin a fait une grande chose », c'est-à-dire qu'il est allé dire en 2003 à l'ONU « On ne veut pas de la guerre contre l'Irak, c'est très bien », mais il n'a pas fait que ça. Et tout le reste, sa carrière est plutôt une carrière dans le droit fil du colonialisme français. Et là, la France n'avait plus rien à voir théoriquement avec ce qui se passait à Haïti à cette époque, mais c'était lui qui était là pour dire au père Aristide « Bon, maintenant il faut partir ». Voilà. Je le rappelle parce que je règle mes comptes avec Dominique de Villepin, dont on a fait une espèce d'icône anti-impérialiste et tout. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Hein. Il était l'expression de la politique arabe de la France, donc portée d'abord par De Gaulle, ensuite par Mitterrand. Et la politique arabe de la France, ce n'était pas une politique anti-impérialiste, c'était une politique où la France défendait des intérêts qui étaient les siens, qui n'étaient pas exactement les mêmes que ceux des États-Unis. Donc on était dans un rapport de puissance et la France gardait effectivement des relations amicales, par exemple avec Saddam Hussein, à qui elle avait fourni de l'armement, à qui elle avait vendu beaucoup d'avions d'assaut. Il y a ça aussi, c'est pas simplement on défend les Irakiens. Non, on vendait du matériel et la France avait aidé l'Irak à s'acheminer vers la création d'une bombe atomique irakienne qui a été arrêté in extremis. Alors là, je raconte aussi parce que c'est bon à savoir. Le 8 mai, je ne me trompe pas, ou le 10 mai 1980, un certain François Mitterrand, vous le savez, est élu président de la République. Dans la semaine qui suit, écoutez bien, l'aviation israélienne vient bombarder le centre de recherche nucléaire irakien, monté par la France et par tous les techniciens et les experts français, qui étaient très pointus en l'occurrence, pour que jamais l'Irak n'ait l'arme atomique. Ça voulait dire, alors je l'interprète parce que ça, c'est très très clair, ça voulait dire que Mitterrand savait ce qui allait se passer, Mitterrand était d'accord pour que Saddam Hussein n'ait jamais la bombe atomique, alors qu'effectivement les gaullistes avaient ouvert la porte pour qu'il puisse l'avoir en disant de ce fait ça fera peut-être l'équilibre avec la bombe atomique israélienne. Ça c'est bon à rappeler. Hein, donc ça, et c'est ce qui a expliqué aussi la position de Villepin à l'ONU. La France avait encore une politique arabe à l'époque et elle voulait continuer à la défendre. Et on lui a fait comprendre que c'était pas possible. Bon, les États-Unis se sont beaucoup, beaucoup fâchés, vous le savez, après la prise de parole de Villepin. Et il faut savoir que l'enchaînement de ça, c'était bousiller la carrière Dominique de Villepin sur la France. C'est-à-dire que de Villepin aurait pu être un président de la République. Là, on est en 2003. Les élections présidentielles étaient pour 2007. Il était sur une trajectoire, avec cet éclat qu'il avait fait à l'ONU, il était sur une trajectoire pour être président de la République. Mais les États-Unis ne voulaient pas. Et donc les États-Unis ont inventé un personnage qui s'y est prêté, parce que vous connaissez le personnage, qui s'appelle toujours Nicolas Sarkozy. Et c'est les États-Unis qui ont jeté Nicolas Sarkozy dans les pattes de Dominique de Villepin pour que de Villepin ne soit jamais président de la République française. C'est ça l'histoire. Et donc, effectivement, en choisissant Nicolas Sarkozy, les États-Unis savaient parfaitement ce qu'ils allaient faire. Et ils ont réussi. Il faut que nous le sachions. Ça nous donne de la distance.
Il ne faut pas oublier que la Syrie aussi, elle avait des réacteurs. Elle avait des réacteurs
tout à fait.
Aussi dans le nord, je crois, dans le nord de la Syrie, et qu'ils ont été bombardés aussi par Israël.
Ouais.
Pour qu'il n'y ait pas de trucs nucléaires. Dans ces pays.
Voilà. La politique d'Israël, on l'a compris par rapport à l'arme nucléaire. Leur politique, c'est de dire il faut que nous soyons les seuls à l'avoir, de telle façon que nous pouvons, d'une certaine façon, exercer un terrorisme d'État par rapport à nos voisins. Hein. Puisque, in fine, on leur dit si vous n'obéissez pas, si vous ne faites pas ce que nous voulons, vous y aurez droit. Alors, on sait que c'est un choix, je suis sur le sujet, je développe un petit peu, c'est un choix qu'ils appellent le choix de Samson, c'est-à-dire qu'en fait, vu l'exiguïté du territoire israélien, utiliser une arme atomique, même en Jordanie ou en Égypte ou en Syrie, c'est s'exposer à recevoir une partie des retombées sur le sol israélien. Mais ils disent, on prend le risque, même si on meurt, on fera aussi mourir l'autre. C'est une espèce de choix qui, paraît-il, est biblique. Enfin, se retrouve dans la Bible sous le nom de Samson, qui s'est un peu à pleurer. Mais enfin, je ne m'éternise pas là-dessus. Et je reviens sur mon point de départ.
Voilà.
Mon point de départ, c'était Haïti. Alors, Haïti, donc, avec toute cette longue histoire, Haïti est toujours au centre des préoccupations du gros colonisateur, c'est-à-dire les États-Unis. Mais il faut savoir qu'en gros, la politique haïtienne est menée par 4 ambassadeurs, l'ambassadeur des États-Unis, qui est prévalent sur les autres, l'ambassadeur du Canada, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Une fois qu'on a réuni ces 4 ambassadeurs, le gouvernement haïtien ne peut qu'exécuter ce que les 4 ambassadeurs ont dit. C'est comme ça que ça se passe. Bon. Alors il se trouve que le dernier président qui est encore en exercice à Haïti a beaucoup de peine pour se faire respecter. Il est corrompu à un degré, j'allais dire, très élevé, mais qui est classique, hélas, dans la classe dirigeante haïtienne. Et puis on le met là parce que, précisément, il est corrompu. Et donc on peut faire pression sur lui. Et puis il suffit de mettre de l'argent dans la mécanique. Enfin, c'est très très facile quand on a beaucoup d'argent. Et donc ce président-là est contesté par la population. Et on était rentré dans une période où, depuis quelques mois, les États-Unis faisaient pression pour envoyer l'armée des États-Unis ou une force militaire pour sauver ce président contre les émeutes qui ont lieu dans la rue, contre lui et contre ce pouvoir corrompu. Et effectivement, les États-Unis, dans ce cas-là, on connaît maintenant leur façon de faire, se sont dit « oui, mais on n'envoie pas nos soldats, nos GI en uniforme et tout, pour réprimer donc une population qui résiste à la colonisation. » Donc il faut trouver, j'allais dire un larbin, c'est méchant, mais c'est plutôt ça, enfin il faut trouver un proxy, on dit ça, maintenant on dit un proxy, ça fait plus propre.
Ouais. Hein.
Il faut trouver un proxy qui va venir faire la police sur le sol haïtien pour sauver ce président qui est pratiquement difficile à sauver. Bon. Et qui ils avaient trouvé? C'est là que l'histoire est assez amusante. Ils étaient en train de négocier avec le président du Kenya. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien oui, alors, vous voyez, c'est l'astuce. On envoie des Noirs tuer des Noirs. Donc ça, c'est bien, c'est une affaire entre Noirs. Nous, on y est pour rien, on tire les ficelles depuis Washington et tout. C'est le bonheur. Bon. Alors, et ils avaient trouvé un allié, un complice, qui s'appelle l'actuel président Ruto, le président kényan, qui était tout prêt à jouer ce jeu, puisque j'en ai parlé à l'occasion de la visite de Sa Majesté Charles III au Kenya. Monsieur Ruto est totalement soumis aux intérêts occidentaux, et en particulier aux intérêts britanniques, puisque le Kenya a longtemps été une colonie britannique. Et M. Ruto était prêt à marcher. Il se trouve qu'il y a des citoyens kényans qui sont allés devant les tribunaux en disant « Mais on ne peut pas faire ça, ce n'est pas le travail du Kenya d'aller tuer des Haïtiens. » Et il se trouve que la justice n'a pas obéi au président Ruto. Et donc pour l'instant, alors il y a eu un premier procès, il y en aura un autre en janvier je crois, mais pour l'instant le président Ruto n'arrive pas à exécuter les ordres qu'il reçoit de Washington. Oui, c'est très intéressant puisqu'on a affaire à un affrontement politique entre deux groupes qui se partagent le pouvoir au Kenya, et le président Ruto n'arrive pas à faire passer la politique de Washington et la politique de Londres puisque c'est la même. Donc je voulais situer ça parce que le globe est tout petit finalement. Et quand depuis Washington on veut intervenir ici et là, on tire quelques ficelles, enfin, c'est un théâtre de marionnettes. Et ah ben là on fait agir la marionnette Ruto. Bon, il se trouve que ça ne marche pas bien, il y a un des fils qui est cassé. Bon, donc la marionnette Ruto n'a pas encore obéi pour l'instant. Je voulais vous raconter ça, parce que c'est intéressant de savoir comment fonctionne effectivement la planète aujourd'hui avec toutes ces interventions et comme un pays... Quel rapport a le Kenya avec Haïti ? Rien, hein, rien du tout. Hein, il n'y a pas d'immigration kenyane en Haïti. Oui, dis-nous, Roger.
Il a fait un séjour à la CPI, William Ruto.
Oui, oui, en plus, tout à fait, oui. Oui, non, il est pas propre, le monsieur n'est pas propre sur lui, on pourrait dire, pour faire simple. Mais justement, il obéit aux ordres, parce qu'il n'est pas propre sur lui, donc il pourrait être débarqué, etc. Ça, c'est un premier cas intéressant. Et puis, un autre que je voulais signaler, c'est... Enfin, il y en a plusieurs. Mais un autre qui est intéressant, c'est ce qui se passe entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et l'Iran. Alors, c'est assez compliqué, mais il faut expliquer qu'il y a une volonté, donc, de l'Azerbaïdjan de récolter... d'avoir un lien entre le territoire azéri, qui est très très large, donc le long de la mer Caspienne, et un petit morceau du territoire qui fait partie officiellement de la République d'Azerbaïdjan, qui est de l'autre côté de l'Arménie, et avec lequel l'Azerbaïdjan n'a aucun contact physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière commune. C'est comme s'il y avait une province française au milieu de l'Italie. On dirait que ça fait partie de la France, mais voilà. Bon. Et là, c'est très très compliqué. Et effectivement, il y a eu une pression à la suite des événements qui sont passés au Haut-Karabakh de l'Azerbaïdjan pour dire il faut que l'Arménie nous laisse passer sur son territoire. Alors effectivement, ça se passe assez mal parce que l'Arménie, qui a déjà souffert, je m'attarderai là-dessus, du fait qu'elle a perdu son espoir d'avoir une enclave à l'intérieur de l'Azerbaïdjan, elle va voir mal dire à sa population « Ah ben on va donner un morceau de notre territoire au sud pour que l'Azerbaïdjan agrandisse son territoire ». Ça serait quand même un peu gros. Autant la position de l'Azerbaïdjan était forte en droit international, en ce sens qu'effectivement, la province du Haut-Karabakh n'a jamais été reconnue internationalement par personne. Autant là, le fait que l'Azerbaïdjan dise « je veux un bout du territoire arménien pour faire passer mes autoroutes et mes voies ferrées », ça peut normalement ne pas plaire au gouvernement arménien. Voilà. Alors il se trouve qu'il y a un troisième larron qui intervient dans le dossier, qui est très intéressant à suivre, qui s'appelle l'Iran. Parce que si vous regardez la carte, vous verrez qu'au fond, la frontière sur de l'Arménie, par laquelle donc devait passer cette future autoroute, cette future voie ferrée, donc reliant les deux bouts de l'Azerbaïdjan, on peut très bien passer par l'Iran, qui est juste au sud. Hein. Et l'Iran a fait savoir et a reçu même les officiels azéris en disant « Mais si vous voulez aller à votre province, vous passez par chez nous. Nous, on a une entrée chez vous à l'est et une entrée chez vous à l'ouest. Hein. Donc laissez les Arméniens tranquilles, hein, arrangeons-nous ensemble et puis vous arriverez à avoir une relation. Et on comprend ça, que vous ayez envie que vos deux provinces soient réunies, c'est très très bien. Mais c'est nous qui vous disons oui, c'est nous qui orchestrons la manœuvre et c'est comme ça. » Alors effectivement, quand c'est l'Iran... qui dit ça aux Azerbaïdjanais, ils ont tendance un peu à écouter. C'est pas comme si c'était ces pauvres Arméniens, peu nombreux, mal vus, etc. Et donc, c'est probablement ce qui va se passer. Ça prendra un certain temps, mais on a là la solution, c'est-à-dire que l'Iran pèse de tout son poids.
Et il ne faut pas oublier qu'il y a la Turquie aussi.
Voilà, la Turquie joue aussi. Alors, la Turquie joue un rôle, mais un rôle un peu particulier, puisqu'en fait, la Turquie est le seul pays sur lequel la province ouest de l'Azerbaïdjan, la province isolée, a une sortie sur le reste du monde. Là, effectivement, une fois qu'il y aurait cette voie ferrée et ces routes qui partiraient par le territoire iranien, il y aurait un lien normal que tout le monde pourrait utiliser, y compris les Turcs. Donc, on a une capacité donc, diplomatique d'organiser les relations dans cet endroit qui est un endroit compliqué, qui est entre les mains de l'Iran. Si vous ajoutez à ça que l'Iran est membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, que l'Iran est dans les BRICS, vous avez un ensemble diplomatique qui fait que c'est des choses qui peuvent se régler sans qu'à nouveau on se tire dessus, sans qu'on sacrifie des Arméniens, des Azéris et tout.
De toute façon, les Arméniens au Karabakh, 100 000, je crois, grâce à l'armée russe qui les ont épargnés d'un génocide.
Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ils sont partis, mais ils sont partis. Je crois qu'il y a eu 10 morts en tout au moment de l'évacuation de la province il y a quelques semaines. Pas plus, parce qu'effectivement, l'armée russe était là et a évité le massacre. Bon. Alors il faut savoir, ça c'est un peu un plaisir d'ordre judiciaire, que la Cour internationale de justice a jugé que les citoyens, enfin les habitants arméniens de la province du Haut-Karabakh avaient le droit de revenir en Azerbaïdjan parce qu'ils seraient considérés comme des citoyens de l'Azerbaïdjan avec une culture arménienne. Bon, est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont le faire? J'ai un peu un doute. Hein, mais enfin, ça a été reconnu et c'est tout à fait conforme aux accords diplomatiques passés, c'est-à-dire qu'ils habitaient à l'intérieur d'un territoire qui est celui de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan peut les accueillir comme il accueille d'autres personnes, d'autres cultures. Mais je ne pense pas que, vu le passé récent, qui est quand même un passé sanglant et douloureux, il y en ait beaucoup qui utilisent ce droit. Mais je voulais le dire, ça fait partie de la vérité. La Cour internationale de justice, c'est tout récent, c'est la semaine dernière, a considéré qu'effectivement, rien ne devait les empêcher s'ils voulaient revenir. Et donc le gouvernement de Bakou, à mon avis, va dire oui, bien sûr, on exécute, mais je ne pense pas qu'ils s'attendent à une foule d'Arméniens qui reviennent vers la province du Haut-Karabakh. Ça, l'histoire le dira. Mais, ça me paraît trop douloureux, il y a eu trop de sang versé en 2000 dans la guerre de 94, etc., pour qu'il y en ait beaucoup qui reviennent. Et puis il y a toute l'histoire.
De toute façon, ils se sont installés en Arménie.
Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'Arménie la laisse faire, parce que finalement, elle ne peut pas faire autrement, et que tout ce jeu, donc l'opération qui s'est mal terminée, donc d'évacuation des habitants arméniens de l'Azérie, a été orchestrée par les États-Unis pour, j'allais dire, empêcher la Russie, les gens de la région, de faire leurs affaires entre eux. C'est-à-dire qu'il y avait une intervention de l'extérieur pour semer du trouble. En gros, on peut résumer la politique des États-Unis là-dessus, s'appuyant. Alors, ils sèment du trouble là où ils peuvent le faire, c'est-à-dire quand ils peuvent s'appuyer à la fois sur une minorité arménienne supérieurement organisée aux États-Unis, comme ils le font avec la minorité ukrainienne, comme ils peuvent le faire avec d'autres minorités, avec des Polonais, des pays baltes, etc. Bon, ça, c'est un des outils de la politique interventionniste des États-Unis, c'est-à-dire accueillir des minorités. Et on sait donc que dans le cas de l'Ukraine, c'est des minorités très très marquées à droite, voire carrément fascistes, et s'en servir dans des objectifs sur le pays dont ils sont à l'origine. Bon. Là, on est dans une situation assez semblable, mais on est plutôt vers la reprise en main par les gens qui sont sur place, c'est-à-dire la Russie juste derrière, qui a des accords de défense avec l'Arménie, la Turquie, l'Azerbaïdjan et surtout l'Iran, pour essayer de trouver une solution à long terme, tranquille, où on arrête les bains de sang, on va dire ici c'est chez moi, ici c'est pas chez moi, etc. C'est un endroit compliqué. De toute façon, historiquement, toute cette zone du Caucase est un endroit compliqué. Bon. De quoi je voulais vous parler?
L'Argentine.
Alors, l'Argentine, on va y venir par différents biais, mais en commençant par l'Argentine. Alors, effectivement, ça a été une espèce de choc dans l'opinion, puisque, en fait, ça a été un choc très, très organisé, puisque le monsieur qui vient d'être élu, donc, ce dimanche, comme nouveau président de l'Argentine, avec un score, d'ailleurs, tout à fait incontestable, 56 et quelques pourcents, donc, il a écrasé l'autre, c'est tout à fait clair. Et ce monsieur travaille à la comme il dit, à la tronçonneuse. Voilà. Oui. C'est son outil de travail politique. Alors, c'est une tronçonneuse qui est pour l'instant une langue qui tronçonne.
Il l'a brandi.
Hein. Mais il a une langue qui tronçonne. Il est dur dans les propos. Et puis, c'est une espèce de clown télévisuel et tout. Mais enfin, ça a eu de l'effet. Alors, ça a eu de l'effet. Alors, il faut le prendre pour ce que c'est. C'est-à-dire, c'est quand même une défaite de l'autre camp. On est dans un vote avec un régime démocratique qui fonctionne plus ou moins bien, mais qui fonctionne. Bon, donc l'autre camp a perdu. Alors c'est là qu'il faut resituer les deux camps par rapport à le discours excessif, flamboyant de M. Mieli, c'est un discours qui fait passer l'autre camp, donc le président Fernandez, le président sortant, donc, comme un peu mou, comme n'allant pas jusqu'au bout de sa politique et tout, mais comme un monsieur qui a eu de grosses difficultés, et il y en aura encore pour les Argentins, à gérer économiquement le pays. Il faut savoir, et ça c'est vrai depuis longtemps, puisque depuis la fin de la dictature militaire, l'Argentine, à travers différents présidents, certains plus à droite, d'autres plus à gauche, mais est passée en permanence sous les fourches caudines du Fonds monétaire international. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le Fonds monétaire international qui gouverne l'Argentine plus peut-être qu'aucun autre pays au monde. La situation économique est mauvaise, l'inflation est à 140%, etc. Bon, c'est pas facile. Et il faut voir que depuis donc, la fin de la dictature militaire, les présidents se sont succédés. Alors, il y avait des Américains, des pro-Américains à 150%. Donc, il y a eu Menem, il y en a eu quelques autres, comme Macri, le précédent de Fernandez. Et puis, il y a eu des gens qui étaient ce qu'on appelle en Argentine des péronistes, donc des centre-gauche. Un peu populaires, etc., mais qui n'ont jamais été des gouvernements vraiment de gauche et qui, de toute façon, passaient leur vie à essayer de desserrer l'étreinte du Fonds monétaire international. Alors, le seul qui ait vraiment tenté l'opération, et ça aurait pu marcher, c'était le président Kirchner et sa femme qui lui a succédé à la tête du pays. Oui, oui. C'est-à-dire, et souvenez-vous, moi je l'ai en mémoire parce que c'était un grand moment politique pour moi, Madame Kirchner à l'Assemblée générale de l'ONU, disant que le FMI n'était pas là pour étrangler des pays de 30 millions d'habitants. Ce n'était pas son boulot. Les aider, c'était une chose, c'était dans les statuts du FMI, mais les mettre dans des conditions épouvantables, ce n'était pas possible. Bon. Oui, et ça... Je pense qu'au FMI et à Washington, on ne lui a jamais pardonné. Hein, à telle enseigne que quand il a fallu élire le président Fernandez, il était question que ce soit elle la candidate, puisqu'elle avait un vrai soutien populaire du fait de ses positions extrêmement courageuses. Finalement, elle a dit « j'y vais pas parce que moi, je vais me faire agresser, je vais avoir des ennuis, etc. » Et elle a préféré laisser la place à son second, M. Fernandez, qui n'a pas brillé. Donc on a une élection qui se résume en un affrontement entre une extrême droite verbale, tonitruante, excessive, et puis une droite qui s'appelle centre-gauche mais qui en fait qui a fallu une politique de droite soumise au FMI qui prévoyait même de transformer la monnaie argentine, de supprimer la monnaie argentine pour que ce soit le dollar qui est court, libre et en supprimer le peso, etc. Bon, et donc moi je résume ça, même si c'est cruel pour des électeurs de gauche et il y en a sans doute en Argentine, on a eu un scrutin entre l'extrême droite et la droite. C'est ça qui s'est passé. Bon, la droite a perdu, et l'extrême droite, qui n'est jamais qu'une caricature de la droite, là, en plus, le personnage de Mieli est lui-même caricatural, a gagné. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas ce qu'il va faire, parce qu'il est à l'affichage devant les écrans de télévision, il se déguise, il se fait des coiffures extraordinaires et tout. C'est plus que Bolsonaro, c'est une comédie extraordinaire, ce personnage. Bon. Quelle est sa liberté politique de manœuvre? Alors, on est clair que les intérêts des États-Unis, on voit où ils sont, on voit comment ils s'expriment et comment ils manipulent la situation. Mais ce qui s'est passé, et là-dessus, il faut s'arrêter, c'est que normalement, dans un mois ou un mois et une semaine, l'Argentine devait rentrer dans les BRICS. Ah! Alors là, ça va être un test extrêmement intéressant. Parce que, je rappelle... Et pour que les choses soient claires, les BRICS, ce n'est pas une alliance politique et ce n'est pas une internationale socialiste ou encore moins communiste. C'est un rassemblement d'États qui décident de travailler ensemble sans agressivité pour régler leurs problèmes ou pour avancer dans la construction et le développement de leur pays.
Hein. Donc, c'est ça.
Donc, c'est pas plus que ça. Et donc, il y a dans les BRICS, enfin, faites la liste des BRICS initiaux, vous mélangez le Brésil, donc l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine et la Russie, on n'a pas affaire à des régimes politiquement homogènes. On est très, très loin du cas. Il s'agit donc bien d'un rapport volontaire entre des pays qui disent « on va travailler ensemble parce que ça nous permettra d'avoir un peu d'oxygène, un peu de liberté de manœuvre par rapport à l'Occident qui est trop gourmand ». Ça ne va pas plus loin que ça. Donc, à la limite, l'Argentine peut rester dans les BRICS. Tout comme le Brésil de Bolsonaro y est resté. Parce que c'est une question qu'on s'est posée au moment où, effectivement, Bolsonaro est élu. On dit, ah ben, il va sortir des BRICS parce qu'il va se... on va lui dire à Washington qu'il faut sortir des BRICS. Bon. Et en fait, il ne l'a pas fait. Il ne l'a fait parce qu'il y avait des intérêts économiques qui continuent à exister entre la Chine et le Brésil, entre la Russie et le Brésil, etc. Et donc, quand on parle de choses sérieuses, c'est-à-dire d'intérêts économiques, d'argent, d'exportation, d'importation, de minerais, de toutes choses comme ça, on se met à regarder les choses plus sereinement. Et donc, on ne se fâche pas avec les BRICS, d'autant plus qu'il n'y a pas une orientation politique pour être membre des BRICS. Alors, on va voir assez vite ce qui va se passer. Et est-ce que M. Mieli va dire, va claquer la porte en disant « je n'y vais pas ». C'est pas sûr. C'est d'autant moins sûr que, et on rentre sur le sujet qui nous occupera aujourd'hui, c'est d'autant moins sûr qu'aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, les BRICS se sont réunis dans une conférence en vidéo à l'instigation du président sud-africain, M. Ramaphosa, pour parler de la situation internationale.
Oui.
Et en particulier de la situation en Palestine, évidemment. C'est ça qui est le sujet chaud à l'ordre du jour. Donc ça veut dire qu'on a une réunion en vidéo qui a été décidée assez rapidement la semaine dernière, où vont intervenir non pas des ministres des Affaires étrangères, mais tous les présidents en exercice, c'est-à-dire M. Xi Jinping, M. Poutine, M. Ramaphosa, certainement Lula lui-même, le Premier ministre indien, je ne suis pas sûr, mais on est à ce niveau-là. Mais il faut savoir qu'à cette réunion en vidéo sont invités tous les futurs membres des BRICS au 1er janvier 2014. C'est-à-dire que M. Mieli... il n'est pas encore président, il le sera, mais en janvier, il sera président. Il peut très bien être représenté, ou au moins l'Argentine devra parler, elle est invitée à cette réunion, hein, et dans laquelle on va parler de la situation, de l'abcès international le plus gros, qui est celui de la question palestinienne. Vous voyez que là, il va se poser des questions en disant « mais finalement, c'est peut-être intéressant que j'écoute ce que disent ces messieurs, qui pèsent lourd quand même, y compris dans l'économie. » Il faut savoir que l'économie argentine est très très liée à l'économie chinoise, hein, par exemple. Bon, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres intérêts qui font que l'Argentine peut avoir besoin d'un peu d'air et de ne pas se soumettre complètement là. Alors, je ne sais pas ce qu'a dit M. Mieli dans sa campagne sur la question des îles Malouines. Mais je ne suis pas du tout sûr que dans son électorat, on soit prêt à dire « Ah ben les îles Malouines, on les laisse à la Grande-Bretagne puisqu'elle les veut hein ». Ce n'est probablement pas le cas. Hein. Et donc, il est probablement amené à se poser des questions. Alors, il aura tout le mois de décembre pour le faire. Mais je pense que la réunion d'aujourd'hui lui permettra de se rendre compte où il arrive et dans quel contexte politique.
Parce je voudrais juste...
Vas-y, vas-y.
Le père Elias nous a envoyé un oui. truc que tu le... qu'on puisse le
lire diffuser. À la radio.
Oui, oui. Très, très bref.
Alors, le père Elias, ça. Oui. Ah oui, c'est un...
Habib, les amis de Habib, merci pour votre message. Tenez-vous.
Ça passe bien.
Si vous tenez pour la Palestine, vous sauverez le monde. L'enjeu du monde aujourd'hui se joue en Palestine. Dites-vous cela bien. Merci, à bientôt.
Voilà. Voilà, ben c'est merci, parce que c'est exactement ce qu'on était en train de dire, oui. hein, parce que c'est une réunion centrale où il y a donc le secrétaire général de l'ONU, les représentants donc des 6 nouveaux BRICS, donc je le rappelle, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Argentine, hein, tout ça fait beaucoup de monde, y compris autour de la zone conflictuelle, de l'abcès de la situation internationale, qui est la situation en Palestine et à Gaza en particulier. Donc, pour que cette réunion-là ait lieu, et pour que les personnages les plus élevés dans la hiérarchie politique de ces pays soient là, ça veut dire que c'est une réunion très très importante. Alors, Roselyne me fait passer un petit papier. Alors, effectivement, elle me dit, l'Argentine dans les BRICS, ça peut être l'espion pour le compte des USA. Oui, Oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais Bolsonaro peut faire la même chose au Brésil. Je crois que la position indienne, elle est mi-chèvre, mi-chou, hein, là aussi. Je pense pas que le Premier ministre indien soit farouchement pro-chinois. On a toutes les raisons de penser le contraire.
Hein. Bon, donc, ça sera un truc économique, voilà, il me semble, sans plus.
Sans plus. Et puis, on décide d'abord de pas s'agresser, de pas signer dans une alliance militaire hostile, c'est quand même bon. Parce que, imaginons, je vais dans le cas de l'Inde, l'Inde décide de rentrer dans l'OTAN. À ce moment-là, bon, ils ne peuvent pas rester dans les BRICS, puisque ça veut dire qu'on a des relations correctes de partenaires à l'intérieur des BRICS. Bon, ça veut dire qu'on s'en va. Et donc, on passe carrément dans le camp d'en face. Voilà. Ce n'est pas ce qui se passera. C'est pas, à mon avis, ce n'est pas ce qui se passera. Donc, voilà. Que va faire M. Mieli? Ben, M. Mieli, à mon avis, va réfléchir et va peut-être mettre un peu d'eau dans son vin, comme a fait Bolsonaro à l'époque, enfin, pas sur la politique intérieure, mais sur la politique étrangère, certainement. Hein. Et du coup, comme il sera obligé d'assouplir, ben, il s'apercevra que c'est tout à fait possible aussi d'assouplir à l'intérieur. Alors, je prends son numéro, donc sa campagne présidentielle, comme un exercice médiatique de grande comédie,
moi, je crois, hein,
destiné à écraser les autres, qui, souvent, les autres étaient à bout de force et n'étaient pas soutenus par la population. Il y a quand même 10 points d'écart entre les deux candidats, c'est pas tout à fait rien. Hein. Les Argentins ont tellement souffert, parce qu'il y a déjà eu des Mieli, je me rappelle le président Menem, là, qui avait pris le pouvoir après les militaires, c'était du même tonneau. Et celui d'avant, le Macri, c'était aussi pratiquement du même tonneau. Donc il y a une oscillation. Les Argentins, depuis donc 90, en gros, passent du pire au moins pire. Hein. On peut souhaiter qu'ils trouvent une solution plus intéressante un peu plus tard. Bon. Ça, c'est les Argentins qui décideront, mais dans un contexte international qui est très, très particulier. Et puis, ce qu'il faut souligner, c'est qu'au moment où donc Mieli arrive au pouvoir en Argentine, Lula est au pouvoir au Brésil. C'est-à-dire une espèce d'inversion des facteurs. Hein. C'est le Brésil qui a été très à droite et qui est repassé de l'autre côté. Et là, c'est l'Argentine qui bascule de l'autre côté. Mais quand on enlève ces deux pays-là de l'équilibre politique de l'Amérique du Sud, on a enlevé les deux gros morceaux. Hein. Alors, il reste bien sûr la Colombie, le Venezuela, mais les deux gros en surface, en population, c'est les deux principaux. Donc, les relations qu'ils entretiennent entre eux sont des relations de voisinage importantes sur des milliers de kilomètres de frontières, etc. Ils ne peuvent pas avoir un comportement hostile l'un à l'autre. C'est trop imbriqué. Alors, bien qu'il y ait des lusophones et des hispanophones, on le sait, mais ça ne suffit pas. L'Amérique latine, c'est quand même un bain un peu particulier avec toute une histoire, y compris dans des rapports compliqués avec les États-Unis. Alors, les États-Unis ont une politique très claire qui a été énoncée par deux fois par Roosevelt le premier et par Monroe. Bon, c'est de dire « c'est chez nous ». Bon, et manifestement, la majorité des habitants d'Amérique latine ne le pensent pas et ne partagent pas cette ambition. Ça joue aussi, ça joue aussi. Donc si Mieli s'affiche comme un pro-américain farouche, il va perdre beaucoup de son aura initiale, avec son résultat remarquable de 57%.
Je ne sais pas si tu as entendu Maduro la traiter de nazi. Hein.
Ah oui, non, mais vu les propos qu'il a tenus, je pense que les autres pays qui sont un peu conscients, il n'y a pas de doute. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que pour Bolsonaro, qui était moins outrancier dans ses propos, on s'était aussi posé la question, et puis il avait pris un certain nombre de décisions qui allaient dans ce sens. Donc voilà, ça m'a permis d'introduire ce sommet exceptionnel, je dis bien exceptionnel, qui se tient aujourd'hui en vidéo, à l'instigation du président sud-africain. D'où il doit sortir? Alors, les BRICS ne sont pas tenus à faire des communiqués. Je pense qu'il y aura quand même des déclarations à la sortie, parce que c'est très, très important. C'est très, très important. Ça l'est d'autant plus que dans les jours qui ont précédé ce sommet, et ça a peut-être contribué à la décision de l'organiser, le président Biden a parlé sur le Washington Post. Alors, quand je dis... Alors, j'ai un sourire quand je dis le président Biden a parlé, parce qu'en fait, il a été produit et publié par le Washington Post une prise de position de Biden sur la situation internationale qui, quand on le regarde parler concrètement devant telle assemblée ou telle autre, ne peut pas être de si bonne qualité. C'est-à-dire que vous savez, je ne suis pas méchant, mais que devant les micros, le président Biden, c'est pas trop, trop clair. Là, donc, ça veut dire que le journaliste du Washington Post a envoyé des questions à la Maison-Blanche et il a reçu un papier de 2 pages, qui est un papier rédigé, structuré, avec des raisonnements. Donc, alors, j'allais dire, j'en sais rien, c'est pas Biden qui l'a fait. Biden l'a signé, mais c'est la position officielle des États-Unis, puisque c'est sous sa signature que ça passe dans le Washington Post. C'était, il n'y a pas longtemps, c'était le 18, hein, et on est le 22. Ouais. Donc, mais ça, ça a dû jouer dans la décision, de, en plus de participer de Poutine et de Xi Jinping. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Biden? C'est intéressant, mais je vais simplifier, parce qu'au fond, ce n'est pas bien compliqué. Nous, je parle, les États-Unis, si j'ose, si je peux me permettre, nos intérêts, c'est de défendre l'Ukraine et c'est de défendre Israël. C'est clair. Bon, ça, il le dit. Ouais. Et en même temps, dans un certain développement de son discours, il dit qu'il quand même, il faut discuter, parce que c'est pas si simple, qu'il y a des oppositions, il y a des gens qui sont pas d'accord et tout. Et ça, c'est trouvé résumé. Alors, je prends pas l'article du Washington Post, mais par un commentaire de ce qu'il a dit après le sommet de l'APEC. Je reviens là-dessus, vous savez que le sommet de l'APEC, donc c'est l'Association économique de l'Asie, qui s'est réunie à San Francisco la semaine dernière, et où donc ça a été l'occasion, entre autres, parce qu'il y avait une réunion où il y avait tous les États membres de l'APEC, donc toute l'Asie en gros qui était là, mais il y a eu, on sait, 4 heures d'entretien, avec ce qu'il faut enlever d'horaire pour les traducteurs, entre le président chinois et Biden. Alors, ça a été très souriant au point, et ça c'est l'anecdote, mais ça mérite d'être cité, que les États-Unis, et donc le département d'État, a découvert une vieille photo de Xi Jinping sur le Golden Gate Bridge à San Francisco, du temps où il était, je ne sais pas ce qu'il était, étudiant ou un peu plus âgé que ça, en disant « on a de vieilles relations entre nous ». Enfin, manifestement, la Maison-Blanche cherchait à arrondir les angles, hein, à ne pas du tout avoir une position agressive. Et là, ça a été très intéressant, ça a été résumé, parce que chacun des deux, après cet entretien de 4 heures qui n'a pas donné lieu à un compte-rendu commun, hein, donc ils se sont parlé, il y a eu donc des commentaires de l'un et de l'autre. Et on a eu d'un côté un commentaire Biden consistant à dire « je défends mes alliés, je défends ma politique » et tout ce qu'il a redit dans le Washington Post, donc « je défends Israël, je défends l'Ukraine », etc. Et de l'autre côté, le président chinois, qui s'est élevé un cran au-dessus, j'allais dire, qui dit « non, non, ce dont nous parlons, vu ce que nous représentons aujourd'hui, vous et moi sur la planète, c'est de l'avenir de l'humanité. Ce n'est pas d'autre chose. Hein. Le reste, après, c'est des détails d'exécution. » Donc, il ne joue pas dans la même cour, j'allais dire. Hein. Xi Jinping, il est très ferme et très clair et pas du tout agressif là-dessus. Alors, ce qui est amusant, je vais vous le citer parce que c'est trop drôle, c'est qu'à la suite de ça, Biden a fait, lui, son commentaire. Et dans son commentaire, il dit... Voilà, parce que quelqu'un, le journaliste, ben ça c'est à la radio, enfin c'est à la télévision, donc c'est pas du tout écrit. Il y a une question qui lui est posée par un correspondant quelconque. « Monsieur le Président, après cette journée, qualifieriez-vous toujours le président Xi de dictateur ? Qualifieriez-vous oui. toujours le président Xi de dictateur ?» Ce qu'il avait fait à la suite d'une précédente rencontre qui avait eu lieu. Bon. Et la diplomatie chinoise avait pris ça très mal, il l'avait dit. C'est un terme que vous avez utilisé plus tôt dans l'année. Ça, c'est le journaliste qui l'a. Alors, écoutez bien ce que répond Biden. Eh bien, il l'est. Vous me demandez s'il est un dictateur. Ben, il l'est, je vous le dis. Je vous le dis, c'est un dictateur dans le sens où il, lui... Enfin, alors, il bégaye un peu, là. C'est un homme qui dirige un pays qui... Alors là aussi, il bégaye. C'est un pays communiste qui repose sur une forme de gouvernement totalement différente de la nôtre. Bon, alors là, il a livré tout ce qu'il avait sur le cœur. Bon... Et puis il ajoute, alors mais c'est là que c'est grandiose, il y a un dernier membre de phrase. Quoi qu'il en soit, nous avons progressé. Ah, ah. Et donc, ce communiste, on lui parle quand même. Hein. Il n'est pas si méchant. Hein. Il n'est pas en train, il n'a pas un couteau entre les dents, il n'est pas à pour égorger et tout. Voilà. Alors, c'est assez amusant de voir, et on retrouve ça dans l'interview pour le Washington Post, c'est-à-dire, j'affirme mes positions, je défends mes alliés, je défends tous mes amis et mes intérêts, mais s'il faut négocier, ben, il faudra peut-être négocier. Alors, en fait, moi, ça me paraît très intéressant de l'analyser comme ça, c'est-à-dire que le président Biden, il sait qu'il n'est plus en position de force, il n'est plus en capacité d'imposer des visions à tous les autres, ni à la Chine, plus la Russie, plus l'Inde, plus ci, plus ça. Et donc, il affirme, ça c'est pour son électorat et pour les citoyens des États-Unis, on est encore les plus forts. Il l'a redit dans l'interview au Washington Post, on est incontournable, on a une puissance d'exception. Ouais. Et puis à la fin, il dit, nous avons progressé. Ah, mais ça veut dire, vous avez discuté de quelque chose, alors. Vous n'avez pas passé votre temps à dire, ah, c'est Jinping, je suis plus fort que toi. Hein? Donc, voilà, il y a ça qui se passe. il y a ça qui se passe, c'est-à-dire tenir un discours électoral ou électoraliste pour dire on est encore les meilleurs, ce qui veut dire surtout prendre le maximum de voix à Trump qui ne va pas se gêner pour tenir le discours de la puissance affaiblie, mais en même temps tenir compte de la réalité des rapports de force qui fait qu'on a quand même des adversaires de grosses capacités en face et qui en plus ont un écho de plus en plus grand à l'extérieur des États-Unis. Et donc tout ça fait partie des rapports entre ce qu'on appelle aujourd'hui le monde occidental et le sud global. Puisque je reviens un peu sur la question des BRICS, c'est une autre façon d'aborder les BRICS. Les BRICS, c'est l'expression du sud global. C'est-à-dire de tous ces pays qui étaient, il y a encore, alors il faut bien se mettre ça dans l'idée, on a tendance à l'oublier quand on est comme ici dans une puissance coloniale, ce sont des pays qui pratiquement tous sont sortis de la situation coloniale, la Russie mise à part, depuis 1945. La Chine en 1945, c'est un pays colonisé. Hein. L'Indonésie en 1945, c'est un pays colonisé. L'Inde en 1945, c'est un pays colonisé, etc. etc. Bon. Donc tout ça fait qu'on a un autre monde qui se fabrique. Alors ça se fabrique dans la douleur, et j'allais dire presque dans l'horreur en Palestine, mais il se passe quand même des choses de fond. Et pour moi, la réunion qui se tient aujourd'hui, donc qui se tient pas en Afrique du Sud, mais à l'initiative de l'Afrique du Sud, est un pas important dans l'évolution du conflit. Oui. Très, très important. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, Netanyahou en particulier, et Biden, qui le sait très bien, ne peuvent pas dire « on fait comme si l'opposition n'existait pas ». Et on fait comme si on allait gagner la partie. Je pense qu'ils ne peuvent plus penser ça. Alors peut-être Netanyahou et ses durs, ses faucons, comme on dit, le pensent encore, mais je pense qu'à Washington, on ne le pense plus. Je m'appuie sur ces propos. Hein. Quoi qu'il en soit, nous avons progressé. Quand vous terminez un entretien comme ça, ça veut dire que vous êtes venu pour quelque chose et que vous avez discuté sérieusement. Hein. Autrement, vous dites, j'ai perdu mon temps, j'ai eu affaire qu'à un dictateur qui m'a ennuyé avec ses slogans. Ben, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Voilà, ça méritait, je pense, d'être dit. Alors, pour la suite, puisqu'on est sur la Palestine, on va y rester. Ouais. Ouais, on va y rester. Alors, je vais reprendre un peu le même dispositif que la semaine dernière, c'est-à-dire il y a une partie humanitaire qui se poursuit comme on la connaît, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de morts, on est à 13 000 morts, je crois, presque 30 000 blessés, etc., des bombardements qui continuent avec les mêmes armes excessives, genre bombes au phosphore, etc., tout y est. Bon, donc l'horreur continue, les réactions mondiales, les réactions populaires sous forme de manifestations continuent à s'amplifier. Bon, je suis assez satisfait, même si les effectifs étaient petits, qu'il y a encore eu une manifestation samedi à Marseille. Il y en aura d'autres. Hein, mais il y a des pays où elles sont beaucoup, beaucoup plus volumineuses. Et ça, c'est vrai. Donc, du point de vue de l'opinion publique mondiale, encore que ce soit un peu simple de dire qu'il y a une opinion publique mondiale, enfin, les manifestations de soutien à la Palestine sont nombreuses, très largement réparties sur toute la surface du globe. Et donc, il ne faut pas juger simplement sur ce que nous envoyons en France, qui est un peu, à mon sens, un peu insatisfaisant, mais je pense que ça pourrait évoluer. À telle enseigne que, par exemple, je vous cite par rapport à la manifestation de Marseille ce samedi, la manifestation donc, qui est organisée par un comité qui s'appelle Urgence Palestine, qui est un comité qui a été créé par des jeunes habitants de Marseille qui se sont lancés tout seuls dans l'opération, qui ont donc pris l'initiative de ces manifestations, qui se sont bien passées, qui les ont organisées, structurées, qui savent pourquoi ils sont là, qui ont des choses à dire, ont été, j'allais dire, je le dis gentiment, encadrés par le mouvement de la paix qui s'est joint à leurs manifestations, sur les positions du mouvement de la paix qui sont des position plus classiquement pacifiste, hein, ils lui ont laissé la parole. Et en même temps, le gros des slogans, le gros des interventions, c'était quand même Urgence Palestine qui le disait. Ça, c'était positif. Hein, parce que le mouvement de la paix a fait ce qu'il est capable de faire. Comme la guerre, c'est vilain, quoi. Je simplifie, hein, mais c'était en gros ça. Donc, ils acquièrent, ces jeunes, donc je le cite, acquièrent une expérience politique pratique, c'est-à-dire dire le mouvement de la paix prévoit de venir avec nous, on l'accepte, parce que tous les soutiens sont bons à prendre, hein, et puis en même temps, on continue à avoir la liberté de notre expression à nous. Hein. Alors le mouvement de la paix s'exprime, hein, et puis nous, on s'exprime, et puis on continue d'organiser des manifestations, il y en aura encore la semaine prochaine. Ça, c'est très, très positif, même si c'est à des échelles, comparativement à l'Angleterre ou à d'autres pays, beaucoup plus petites. Mais c'est très, très bien, et on s'en satisfait. Donc, sur la question humanitaire, ça reste en l'état. Ce qu'il faut préciser quand même pour la question des hôpitaux bunkers, c'est qu'il est avéré qu'il n'y avait pas de bunker et que le commandement d'une guérilla ne s'enfonce pas sous un bâtiment sans bouger. Ça, n'importe qui a regardé comment fonctionne une guérilla sait que l'état-major de la guérilla, il bouge par définition. Parce que dès l'instant où il est repéré, s'il avait été repéré, il serait mort. Donc, ça, il ne pouvait pas être caché. Il ne pouvait pas être caché là. Ça, c'est un point tout à fait important. Donc, il reste après l'aspect militaire. L'aspect militaire, c'est qu'effectivement, les progressions de l'armée israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza sont lentes, difficiles, parce qu'il y a des combattants palestiniens qui sortent d'ici et de là, dans un immeuble, dans un trou, etc., et qui rendent la progression délicate. D'autant plus délicate que quand vous avez tout cassé, bon, vous ne pouvez pas circuler dans les rues à 60 à l'heure, c'est pas possible, et donc que les blindés israéliens sont fragiles et qu'ils sont soumis à des ripostes militaires organisés avec des armes apparemment qui marchent. On voit des vidéos là-dessus.
En 3 jours, il y a eu une soixantaine entre chars et camions de transport qu'ils ont été complètement démolis.
Voilà, donc progression difficile parce qu'il y a effectivement une partie militaire et que le Hamas n'est pas battu.
Oui, parce qu'ils ont tout démoli, automatiquement les chars, d'accord, ils s'enfoncent à l'intérieur.
Voilà, mais ils ont de la peine à progresser.
Du char, ils sont à l'intérieur du char, ils ne sortent pas.
Et non, bien sûr.
Alors automatiquement, les autres, ils attendent avec bien des sûr. Bombes RBJ, Yassine, 150 ou un truc comme
donc,
ça.
Donc voilà, aspect militaire qu'il ne faut pas oublier parce qu'il est très très important. La guerre militaire, la victoire militaire de l'armée israélienne n'est pas du tout acquise et ce sera extrêmement difficile.
Et surtout du côté du Liban.
Voilà. Parce que là aussi, et puis il y a le côté à la frontière nord, le Hezbollah qui montre qu'il est là et que surtout il ne faudrait pas que l'Israël ait la mauvaise idée une nouvelle fois de mettre les pieds au Liban.
Il a démoli d'ailleurs tous les radars, tous les, comment on les appelle, les systèmes sécuritaires
de l'armée israélienne.
Voilà. De plus, actuellement, la Syrie et l'Irak aussi. La résistance, elle bouge.
Tout à fait.
Ils ont bombardé certaines bases américaines à plusieurs reprises avec des drones. Et aussi du côté du Yémen. Il ne faut pas oublier que le Yémen, ils ont d'ailleurs arrêté un bateau.
Ils ont arraisonné un navire de commerce israélien et ils ont pris la totalité de l'équipage.
Mais proprement bien.
Ah oui, oui, ça fait partie.
On voit que c'est une armée bien préparée, c'est pas des.
Voilà, d'une part, ils ont eu la capacité d'arraisonner un navire, donc en pleine mer Rouge, où il y a quand même aussi des bateaux d'autres puissances. Et puis, ils ont ramassé comme ça 20 ou 30 nouveaux otages, mais entre guillemets, qui sont des monnaies d'échange dans la future négociation d'échange des otages. Or, il se trouve que là où c'est compliqué pour Israël, c'est que ce navire qui était israélien était armé par des compagnies qui n'étaient pas israéliennes. C'est-à-dire que les équipages ne sont pas israéliens.
Ouais.
Et donc, ça veut dire qu'il y a des puissances tierces, alors est-ce que c'est un peu n'importe quoi, il y a des puissances tierces qui ont des citoyens aujourd'hui qui travaillaient sur ce bateau, qui sont otages du conflit. Et donc, ces puissances vont demander à ce qu'on leur restitue ces personnages. Et donc, ça donne une arme diplomatique extrêmement importante à la Palestine, pour dire, on les rendra, mais il y a une monnaie d'échange. Et donc, ça monte le prix de l'échange. C'est-à-dire que plus il y aura de personnages comme ça qui seront dans les prisons yéménites, plus la Palestine pourra exiger de libération de ses prisonniers à elle.
Il y a environ, il faut le dire, plus de 6000 prisonniers palestiniens qui sont...
C'est des gens qu'on a arrêtés. C'est des gardes à vue sans motif, qui
sans
se prolongent
motif,
pendant des années.
Des hommes politiques, d'ailleurs.
Alors, dernière chose là-dessus, c'est les éclaircissements qu'il y a sur la journée du 7 octobre. Alors, on revient maintenant petit à petit sur la journée du 7 octobre.
C'est important.
Parce que si vous lisez, alors c'est assez amusant l'évolution, si je peux me permettre le terme d'amusant, c'est-à-dire dans les gens qui disent il faudrait quand même commencer à comprendre genre le mouvement de la paix, qu'il y a un vrai problème en Palestine. Bon, il serait temps qu'ils le disent, mais ça commence toujours après les horreurs perpétrées par le Hamas. Alors, une fois que vous avez dit ça, vous avez une espèce de droit à la parole médiatique. Puisque vous avez dit la phrase qu'il faut dire, on va vous laisser parler pour la suite. Mais il faut d'abord dire ce membre de phrase. Or, ce membre de phrase, il va être de plus en plus délicat à articuler. Pourquoi ? Parce que, en réfléchissant, Et il y a un certain nombre de journalistes, y compris israéliens, qui ont mis le doigt là-dessus en disant « Mais attendez, on a annoncé que le Hamas avait fait des milliers de morts dans la zone où il est parti, vers le fameux kibboutz, dont je ne sais plus le nom, et à l'endroit où s'était tenu ce fameux rave party, cette fête, etc. » Et les photos qui ont été diffusées, ce qui a été une maladresse de la part de la propagande israélienne, ce sont plusieurs dizaines de véhicules brûlés, des choses comme ça, des bâtiments brûlés, etc. Comme si le Hamas disposait d'hélicoptères, de missiles, etc. Mais quand on est à pied avec une mitraillette, on ne peut pas brûler des dizaines de voitures comme ça, on ne peut pas détruire des bâtiments, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'armée israélienne, sachant que le Hamas avait fait des prisonniers dans la fameuse surprise partie, a dit, la consigne est arrivée, mais un peu tardivement, il faut essayer d'éliminer tout ça. Hein, pour donc éliminer les otages, comme ça, il n'y aura pas d'otages, c'est très facile, enfin, c'est un raisonnement affreux. Hein. Mais oui. L'état-major israélien dit, tuez tous les otages, comme ça, on n'aura pas d'otages et on n'aura rien à échanger. Bon. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que des hélicoptères Apache, qu'on connaît bien puisqu'on les a vus dans Apocalypse Now, sont passés au-dessus de la colonne dirigée par le Hamas qui quittait le lieu où avait eu lieu cette partie et ont bombardé la colonne.
C'est ça.
Hein. Voilà. Alors, les 1200 morts, ils sont très largement à imputer à l'armée israélienne. Bon, on en est là. Donc, effectivement, cette phrase, les horreurs du Hamas... Je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu des échanges de tirs, c'est possible, il ne faut pas simplifier la situation. Mais le gros des morts, des horreurs de la journée du 7 octobre, c'est des morts de l'armée israélienne. Alors, effectivement, c'est un peu délicat pour elle de le reconnaître, mais le Hamas n'a pas d'hélicoptère, c'est tout. Donc, on ne peut pas faire ça avec des pistolets mitrailleurs. Bon, c'est aussi bien. Alors, ça commence à venir, c'est-à-dire que chaque morceau de la propagande israélienne s'effrite. Frites morceau par morceau. Ouais. Et ça, c'est très important de le souligner, parce que ça fait partie de la modification du rapport de force politique. Alors, ce n'est pas encore la modification du rapport de force global et une négociation qui devrait avoir lieu, mais ça n'arrête pas instantanément le drame humanitaire qui a lieu à Gaza, c'est vrai, mais en même temps, on voit bien qu'il y a un changement dans le rapport politique entre les deux camps. Ça, c'est tout à fait important de le souligner. Et puis, ce que je voulais souligner aussi, parce que ça fait partie de cette évolution, c'est que désormais, la voie du droit est en train de s'ouvrir. C'est-à-dire que là, on est dans le cas donc, de l'armée israélienne bombardant Gaza, on est dans le cas du rapport de force dans sa forme la plus brutale, puisque j'attaque des populations sans défense civile, etc. Bon, là, c'est le rapport de force à l'état le plus sanglant possible et imaginable. Mais dès l'instant où vous dites maintenant il y a un chemin par le droit qui permet de dire, le droit ça permet, devant des institutions, de dire il y a un coupable qui a fait ci et ça et qui est condamnable. Et ce chemin du droit est en train de s'ouvrir progressivement. Auprès de la Cour pénale internationale en particulier. Alors d'une part, parce que ça vient d'un certain nombre d'États. Et ça, c'est très important. Il y a des États qui ont déposé une plainte devant la Cour pénale internationale par rapport à la façon dont Israël traite la population de Gaza. Bon. Ces États, en tête duquel on a la Bolivie, je le signale, on a le Bangladesh, on a les Comores, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est très très important. Et donc on a des États qui disent, nous considérons qu'il y a crime contre l'humanité, puisque la Cour pénale internationale est compétente en cette manière-là, ou crime de guerre, et commise par le gouvernement israélien. C'est bien l'armée israélienne qui bombarde, elle s'en glorifie à la limite, donc c'est clair. Donc on a déjà du côté des États des dépôts de plainte devant la Cour pénale internationale. Et ça, c'est très, très important. Pour la Bolivie, ça va jusqu'à la rupture des relations diplomatiques. C'est-à-dire, on ne veut plus avoir de rapport avec cet État. C'est tout. Le Bangladesh, c'est on retire notre ambassadeur. Enfin, il y a une évolution de ce terrain. Et puis, il y a l'autre évolution à laquelle on consacrera, je pense, une émission au mois de décembre. Je suis en train de la préparer, qui consiste à des dépôts de plaintes individuelles, c'est-à-dire une famille de Gaza dont les 5 enfants, les 4 cousins, enfin, qui a perdu des...
Il y a eu 1700 boucheries.
Voilà. Voilà, c'est ça. Des milliers de morts.
Des familles. Voilà, et tout,
qui sont carrément des crimes de guerre.
C'est vraiment des boucheries.
Voilà. Et donc, il y a eu un rassemblement d'avocats international à l'initiative d'un avocat français, lyonnais, pour dire on va déposer des plaintes contre l'État d'Israël, contre les responsables de l'État d'Israël qui ont décidé de traiter comme ça la population gazaouie. Et ça se met... Alors, on peut dire, effectivement, on pourrait vous dire, oui, mais le droit, c'est long, le droit, c'est compliqué et tout. Oui, certes, mais je pense que par rapport à la situation historique dans laquelle se trouve la Palestine, c'est-à-dire que ce qui s'est passé le 7 octobre et qui continue maintenant, c'est un tournant dans l'histoire de la Palestine, oui. C'est-à-dire que, ou bien on continuait sur le chemin tracé depuis 67, depuis la guerre du Kippour et tout, et puis parti comme c'était encore 15 ans, les Palestiniens avaient zéro hectare sur leur futur État, hein, ou bien il y avait un coup d'arrêt. Le coup d'arrêt, je pense qu'il a eu lieu. Et c'est bien qu'effectivement, au moment où ce coup d'arrêt a eu lieu et qu'on en a conscience ici et là, la voie du droit s'ouvre, c'est-à-dire qu'il faudra bien, pour que les Palestiniens puissent vivre tranquilles dans leur État, et les Israéliens qui veulent aussi rester tranquilles dans leur État, passent par la voie du droit. Ça ne va pas être un duel au canon, hein, ça va être un règlement juridique. Donc la voie du droit ouvre le chemin, c'est les premiers pavés sur le chemin d'une construction politique solide avec un État palestinien et un État israélien. Ça, c'est important. Alors, il y a aussi des penseurs, des gens à gauche qui disent « Oui, mais deux États, ça ne rime à rien, il en faut un seul et tout. » Ça me paraît joli sur le papier et en même temps, ça ne me paraît pas très raisonnable. Vu tout ce qui s'est passé, enfin, les 75 ans de passé commun, si j'ose parler de passé commun entre les Palestiniens et les Israéliens, c'est pas possible aujourd'hui de dire ça y est, on oublie tout, on s'embrasse, on est amis et tout. Non. Alors, commençons par être chacun chez soi, on s'organise et puis après, si on doit avoir des relations intelligentes de bon voisinage, on en aura, mais pas tout de suite. Et vous n'allez pas demander aux colons excités qui viennent encore tirer les Bédouins à la Kalachnikov, vous n'allez pas leur demander tout d'un coup de dire je les aime, c'est pas possible. Ils sauront pas le faire. C'est pas possible humainement. Donc, ça serait très bien sur le papier. Bon. Je vais finir par mentionner.
Il y a aussi Djibouti et l'Afrique.
Voilà, c'est
du
ça
Sud.
Que je cherchais. Djibouti, voilà, et
Afrique du Sud.
Afrique du Sud. Bon. Oui, c'est ça, les cinq États donc qui ont déposé plainte à la CPI. Donc ça, et là aussi, l'Afrique du Sud, c'est pas tout à fait par hasard, parce que l'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'elle a dans tête quand elle pense à l'apartheid, elle pense à l'apartheid, elle sait ce que c'est, hein, et elle sait que effectivement, les Israéliens étaient très copains avec les Blancs qui gouvernaient l'Afrique du Sud jusqu'à la fin de l'apartheid.
Ils ont voulu créer un pays en Afrique du Sud
tout à fait.
Pour les Israéliens.
Tout à fait.
Oui.
Et puis la bombe atomique sud-africaine qui était préparée par les colons, enfin, par les Blancs, hein, elle a été fabriquée avec l'aide d'Israël. Tout ça est connu. Alors il faut savoir que Mandela, quand il est arrivé au pouvoir, a dit à toute la communauté internationale, moi je ne veux pas de l'arme atomique. Hein, mais autrement, les autres étaient prêts à l'avoir. Alors, je n'ai pas dit un mot sur l'arme atomique israélienne, mais elle existe, tout le monde le sait. Ouais. Et on se met à dire « Ah, mais mon Dieu, ils ne l'ont pas reconnue. Ben, » Je veux dire, ça n'intéresse personne. Si ça intéresse, ça excite Erdogan qui dit « Ah oui, mais alors il faudrait que l'Agence internationale de l'énergie atomique se saisisse du problème. » Mais l'Agence internationale de l'énergie atomique, elle le connaît, le problème. Simplement, il faudrait qu'elle puisse envoyer sur place, au bon endroit, donc dans le désert du Negev, l'endroit où il y a les bombes et les centrales pour les préparer, des inspecteurs. Ça supposerait qu'Israël ouvre la porte aux inspecteurs de l'AIEA. Mais comme Israël n'a pas signé le traité de non-prolifération, ça ne marchera pas. Donc, on peut s'énerver là-dessus. Ils ont des bombes. Là, le problème, c'est d'éviter qu'ils s'en servent. Hein, et pour éviter qu'ils s'en servent, il faut les contraindre d'autres façons politiques. Dernière chose, puisqu'on est à Marseille, il se produit au Théâtre de la Criée une pièce qui s'appelle « La paix ». Bon. Donc c'est une réadaptation marseillaise à la française d'une pièce d'Aristophane, 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors la pièce d'Aristophane se justifie par le fait que la Grèce, et en particulier la ville d'Athènes, avait mené des guerres, donc une guerre victorieuse contre les Perses, les Mèdes on disait à l'époque, et puis une guerre qu'elle a perdue contre Sparte. Et puis elle avait perdu une autre guerre qu'elle voulait mener en Sicile avec Alcibiade. Et donc il y a eu un moment où la population athénienne disait « c'est bien joli vos expéditions militaires, mais en fait d'abord on perd, et puis on s'appauvrit, et puis il y a des marchands de canons ». Alors ils disaient pas marchands de canons à l'époque, mais il y avait quand même des gens qui forgeaient les épées, les casques, et tout, qui s'enrichissaient. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose à une autre échelle. C'est tout. Alors, cette pièce, c'était opportun, disons, de la montée francisée, marseillisée même. Et en fait, le résultat, à mon sens, est mauvais, en ce sens que dans la pièce d'Aristophane, c'est un berger qui dit mais il faut arrêter les frais, etc. C'est l'homme du peuple qui s'exprime en disant il faut arrêter ces guerres, on n'en profite pas, fait, le peuple en souffre, etc. Et là, on le transforme en un personnage. qui fabrique. Enfin, il dit la guerre, c'est une usine à faire du caca, et on a donc sur scène une énorme usine à faire du caca qui pète, etc. Ça dure une demi-heure. Les comédiens disent merde toutes les deux phrases. Hein. C'est pas très très intéressant. Alors, on a l'impression que les comédiens se sont bien amusés, les spectateurs pas trop, parce que à force de caricatures de ce niveau-là. Ça ne fait pas bien comprendre ce que c'est que l'impérialisme contemporain. On peut mieux faire, j'allais dire. Voilà. Mais ça fait partie des choses. Alors, on a constaté que des adaptations de cette pièce d'Aristophane arrivent tout d'un coup, à peu près toujours au même moment, dans ces moments de crise internationale grave, et que chacun y va de son adaptation. Alors, mon sentiment, ceux d'entre vous qui ont pu l'avoir n'auront peut-être pas le même, c'est que c'est plutôt raté, et que l'usine à caca, ce n'est pas très démonstratif. Hein. Alors, ça fait un peu fête de patron. Une usine qui envoie du caca, qui pète, qui fait beaucoup de bruit. Bon, c'est pas très adulte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Merci à Brandon. On se retrouvera mardi prochain, peut-être avec Brandon si tu es encore là.
Bah, écoutez, tant que je suis là, je serai là pour vous. Il n'y a pas de problème.
Très bien. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et à mardi prochain.
À mardi prochain.
Ouais, l'usine à caca.